Donc, je vais y aller tout de suite donc, avec M. Simard. Alors, bonjour, M. Simard.
Bonjour, M. Trudel.
Alors, vous allez bien?
Oui, merci de m'inviter.
Ça fait plaisir. Alors, M. Simard, peut-être peut-être en entrée, nous dire un petit peu, là, un petit peu un parcours, puis qu'est-ce que vous faites là, en ce moment comme travail en tant que psychologue? Est-ce que vous avez un domaine particulier que vous travaillez?
Oui, je travaille beaucoup, en fait, particulièrement la psychologie des couples.
OK.
On fait de la psychologie individuelle aussi. En fait, j'ai fait de la psychologie individuelle, mais particulièrement la psychologie des couples, là, ce qui m'amène aussi à avoir développé un peu une expertise avec les couples qui viennent justement d'avoir des enfants. C'est souvent des gens, des couples qui vont venir consulter. Grosso modo, là, c'est à peu près ma pratique privée. Là.
D'accord. Quand vous dites la pratique, est-ce que vous recevez toujours le couple en même temps ou parfois c'est l'homme, ensuite c'est la femme séparément? Comment ça fonctionne habituellement, ce genre de pratique-là?
Oui, mais en fait, il y a différentes façons de fonctionner. Moi, je préfère rencontrer le couple en même temps, habituellement, okay. Une heure et demie, la première rencontre, puis après ça, des rencontres d'une heure. Ça nous permet de faire le topo là, pendant une heure et demie, de prendre bien le soin de la dynamique. Il y a d'autres psychologues qui préfèrent faire des rencontres individuelles avant. Moi, je vais l'utiliser seulement si il y a des enjeux que j'ai besoin d'aller chercher, qui sont difficiles à aller chercher au niveau du couple, mais okay. Je préfère ça parce que j'ai principalement la vraie dynamique devant moi tout de suite. Mm-hmm. Ça me fait gagner plus de temps. Puis moi, c'est comme ça que je le travaille.
OK. Donc, aujourd'hui, vous venez nous parler un petit peu, justement, d'une de ces spécificités de vivre en couple et puis le fait aussi que pour un homme, l'arrivée d'un enfant, ben ça change beaucoup de choses, ben autant pour la mère, bien sûr, et pour le père, mais j'imagine qu'il y a une dynamique différente. Souvent, on a souvent le stéréotype de dire que les gars sont moins partants pour fonder une famille que les femmes. Comment vous recevez ça dans votre pratique? Comment ça se concrétise?
Bien, en fait, il faudrait peut-être que je précise que mon intérêt s'est beaucoup manifesté lorsque j'ai moi-même eu des enfants.
Ouais.
Mm-hmm. Ça a été pour moi un gros traumatisme.
OK. Ouais.
Non, c'est un gros choc, en fait. C'est un gros trouble d'adaptation, je vais dire ça comme ça. En fait, j'étais préparé, je voulais des enfants, je voulais une famille, j'en rêvais depuis tellement longtemps. Ensuite, j'avais entendu beaucoup de couples dans mon cabinet me parler des soucis, puis
des beautés
de ça. Donc, puis beaucoup de personnes en individuel aussi qui me parlaient de ces éléments-là. Je me considérais quand même pas mal prêt. Mm-hmm. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental, puis d'un point de vue aussi dans mes étapes de vie où j'étais rendu. Puis malgré tout ça, j'ai quand même éprouvé vraiment la première année, c'était pour moi une année vraiment, vraiment difficile.
Okay.
Remplie de bonheur, remplie de joie, mais une année quand même vraiment difficile sur le plan de l'adaptation.
D'accord.
Fait que je me suis intéressé par la suite vraiment beaucoup au sujet. J'ai écrit là-dessus, puis je vais continuer d'écrire là-dessus.
Ah. Donc, c'est quoi les principaux effets là, que ça a fait sur, ben, peut-être sur vous, puis ce que vous observez dans votre cabinet?
Oui, ben, je vais y aller plus avec ce que j'observe, là, mais aussi à partir de... Ce que j'observe beaucoup, c'est la différence de... En fait, ce que je pourrais dire, c'est que la femme, elle a un temps de s'attacher à l'enfant beaucoup plus... elle s'attache à l'enfant le jour 1.
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle conçoit, puis étant en fusion, elle vit beaucoup d'intériorité par rapport à cet enfant-là, le fait d'en prendre soin déjà, ça change beaucoup le lien d'attachement. Parce que quand l'enfant vient au monde, elle est déjà pleinement attachée, elle a juste hâte de le voir. Puis nous, comme hommes, c'est quelque chose qui est
ça se concrétise quand
c'est moins concret, exactement.
C'est moins concret.
C'est juste quelque chose de projeté, c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais c'est pas quelque chose qu'on ressent, même si on peut comme partager la grossesse, puis s'impliquer, puis moi je me suis beaucoup impliqué, mais il reste que le rythme d'attachement va commencer, en fait, le début de l'attachement va commencer plus à la naissance pour l'homme. Puis ça crée quand même un déséquilibre, parce que l'homme se questionne. Ouais. Je vois beaucoup d'hommes qui se questionnent, mais il me semble que je l'aime-tu, je suis capable d'aimer, c'est-tu parce que je suis correct ou pas correct, donc il y a des questions de capacité parentale avec le comparatif féminin.
Oui, sûrement.
Donc l'idée de faire de l'intervention ou d'enseigner, de faire de la psychoéducation sur le lien d'attachement, bien, ça va amener aussi, en fait, ça va rassurer beaucoup les hommes. L'autre élément que je vois aussi, c'est que des fois, les hommes ont tendance à moins s'impliquer dans les soins au début.
À l'enfant, oui. Mm-hmm.
À cause de, bon, du manque de confiance sur la capacité parentale et autres, puis la valorisation de la mère à ce niveau-là. Fait que ça fait que le lien d'attachement se fait moins vite. Donc, plus tu t'investis, plus ton lien d'attachement se fait, plus tu as okay. confiance, plus tu as une place, mm-hmm. plus ton investissement au niveau de la famille va être intéressant au niveau de ton identité et de ton rôle. Ce qui fait en sorte que quand tu as des doutes ou... ben en fait, tu vas avoir tendance à te retirer un peu plus. Mm-hmm. Les hommes se confient moins, donc les hommes n'aiment pas se sentir nécessairement impuissants non plus. Donc, mm-hmm. Ça, c'est les ils vont souvent garder ça pour eux. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'aide pour les hommes.
Oui, pour s'apprivoiser par rapport à ça, oui. Ouais,
mm-hmm. Exactement.
Puis en plus, je veux dire, si l'homme ne fait pas la demande, s'il ne fait pas les démarches, j'imagine que c'est sûr que c'est la mère va rester proche de son enfant, puis elle ne va pas nécessairement le proposer automatiquement au père. Là.
Non, on va le faire surtout dans un contexte d'épuisement, où est-ce qu'elle va dire, ben, je ne suis plus capable, prends-en soin, mais mm-hmm. l'homme arrive de... il débute cette parentalité-là un peu plus dans la crise plutôt que dans quelque chose qui est harmonieux, qui est préparé, puis qui est cohérent avec lui et les valeurs qu'il souhaite placer de l'avant.
C'est ça. Puis j'imagine aussi que pour l'homme, tout à coup aussi, il perd un peu de proximité avec son épouse, là, quand il y a un enfant qui arrive aussi, il y a tout cet aspect-là aussi.
Oui, effectivement, ça c'est ce qu'on entend beaucoup, puis ça, mm-hmm. je pense que c'est un des éléments importants. Mais cette proximité-là, si la transition se fait bien, cette proximité-là va se retrouver dans la famille. On va parler du « nous ».
OK. Puis
les hommes, des fois, ils ont un « nous » qui est un « nous » de couple. Ouais. Non, puis la femme, elle a un « nous » famille. On va le vulgariser comme ça. Donc, pour nous, passer du temps avec le « nous », ben, c'est de sortir, aller prendre une marche avec l'enfant. Puis l'homme, ben là, c'est pas du temps qu'on a passé ensemble parce que sa conception du « nous » est pas la même. Donc, mm-hmm. là, il va vivre peut-être, justement, c'est souvent là qu'il va vivre comme une impression qui est moins importante ou qu'il y a moins de temps qui lui est accordé. À partir de là, ben, il va vivre encore plus de retrait. L'homme a tendance à faire un retrait ou des fois s'exprimer en colère. Donc, ce qui s'exprime en colère va créer un retrait éventuellement.
Ouais.
Donc là, il y a toute la notion des rêves qui viennent un peu être confrontés. C'est-à-dire, ben, on voulait vivre une belle harmonie. Puis surtout, chez la femme, on voulait vivre quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui allait nous amener à vivre, transcender le couple. Puis on se retrouve dans des enjeux plus conflictuels avec on se fait des reproches mutuels. Donc ça vient, il y a beaucoup de deuil aussi la première année, même s'il y a beaucoup de joie, il y a aussi beaucoup de deuil qu'on parle pas. On parle tout le temps de la première année où à quel point c'est beau, puis à quel point c'est merveilleux d'avoir un enfant. Puis on est comme un peu, je trouve des fois que les gens sont comme honteux de, en tout cas moi c'est ce que j'observe, un peu honteux de parler de que ça y aille pas super bien, comme si ça devrait bien aller, alors que c'est tellement un gros problème d'adaptation, c'est tellement un changement de vie qu'il faut se donner cette première année-là de transition, puis la comprendre comme une année d'adaptation.
Surtout que j'imagine encore plus pour les hommes qui n'ont pas rarement autour d'eux des gens qui peuvent confier justement sur ce qu'ils vivent à travers cette paternité-là. Contrairement peut-être aux femmes qui ont quand même un réseau souvent de femmes qui vivent les mêmes choses puis qui peuvent en discuter entre elles.
Oui, c'est un bon point. Surtout que moi, je dis souvent à mes clients, on est les premiers hommes de notre génération. Tu sais, moi, j'ai 40 ans, puis mon père avait pas le rôle que moi j'ai auprès de mes enfants. Mm-hmm. Donc, on peut pas aller chercher de l'aide auprès de nos pères. Certains, mais la majorité n'ont pas nécessairement connu ça. Donc, mm-hmm. tandis que la mère va aller chercher beaucoup de soutien au niveau de sa mère. Puis quelqu'un un homme qui arrive en détresse vers un autre homme, ça réagit pas pareil non plus.
Non,
c'est comme, faites-en pas, ça va passer.
c'est ça qu'on est porté à dire. Ouais. Viens prendre une bière, ça va être correct.
Donc, c'est ça. Puis, je suis content de toute cette importance-là au niveau social. C'est plus que juste au niveau de la maternité ou de la paternité. C'est au niveau social. Votre émission est une belle chose pour donner une place aux hommes parce que malgré tout ce qu'on peut en penser, il y a quand même pas beaucoup de place pour que les hommes puissent s'exprimer sur le plan émotionnel ou identitaire dans notre société actuellement.
Oui, c'est ça. Il y a une place à faire. En fait, les hommes ont à prendre leur place puis à s'exprimer parce qu'une chose qu'on n'a peut-être pas aussi naturellement que les femmes. Là, on vient de parler peut-être dans les cas de gars qui sont ouverts, prêts à accueillir un enfant, mais il y en a qui n'en veulent pas d'enfants. enfants, là, ça doit être encore une autre étape, là, encore plus difficile.
Bien, en fait, ceux qui en veulent, qui n'en voulaient pas nécessairement, puis qui en ont, en tout cas, c'est bizarre à dire, là, mais j'ai souvent vu des personnes qui ont trouvé quelque chose de bien là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conçu à quel point elles allaient pouvoir s'attacher à cet enfant-là. Autant que c'est des doutes. Mm-hmm. C'est souvent des doutes sur la paternité, sur la compétence, sur les besoins de liberté.
Ouais.
Puis un coup, une fois qu'ils ont vécu l'expérience avec leur enfant de d'autres besoins ou d'un rôle de proximité qui leur apporte beaucoup, il y a quand même un investissement qui se fait où les hommes sont surpris à quel point sont investis, attachés puis investis dans la famille alors qu'ils pensaient au départ faire ça pour garder leur conjointe, là, on va dire pour vulgariser encore, mais pour ceux qui ont vraiment de la difficulté, en tout cas à mon expérience clinique, je pourrais vous dire que c'est souvent au niveau de la perception du rôle qui est dont la compétence parentale, c'est-à-dire que si il en voulait pas d'avance, c'est que la mère a compensé beaucoup.
Okay.
Ça a comme entretenu l'idée que il était pas fait pour ça ou que sont pas adéquats pour ça. Puis à partir de là, ben l'engagement dans la famille ou on va dire l'attachement avec l'enfant va moins bien se faire. Puis ça peut perdurer dans le temps.
Oui. Ouais. Puis je pense qu'aussi c'est pas nécessairement tous les hommes, mais on a un petit côté difficile avec l'engagement, les gars en général. Donc, c'est un gros engagement là, de donner naissance à un enfant. Là.
Oui, c'est un gros engagement. Puis, on est dans un rôle, on est habitué dans un rôle plus protecteur, alors que, dans le fond, on demande beaucoup aussi un investissement affectif. Donc, Bon, on dit qu'on a une transition à faire sur le plan social. Je pense que l'enfant le facilite aussi cette transition-là sur le plan social. Je pense que pour l'homme, ça le rend plus proche de ses émotions. Ça redéfinit un peu son rôle au sein de la famille.
Ouais,
puis
ouais.
Ça l'amène à partager le pouvoir, parce qu'on dit souvent que le couple est patriarcal, la famille est matriarcale. Puis il va trouver des avantages à ça.
Okay.
Donc, bref, je pense que ça peut être positif aussi.
Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, le fait qu'un homme va avoir un fils ou avoir une fille, est-ce qu'il y a des effets différents, dépendamment du type de sexe de l'enfant?
Oui. Je peux pas me baser sur des recherches, malheureusement, mais je pourrais vous dire que les hommes que j'ai rencontrés ont une facilité un peu de proximité un peu plus grande avec leur fille
qu'avec
leur petit gars. C'est tout simplement à cause de la socialisation, comment on est socialisé.
C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. D'ailleurs, on l'observe quand on est plus vieux, puis on a quand on essaie d'ouvrir une conversation avec notre père, c'est vrai que c'est pas toujours facile, effectivement, la communication. Ouais. C'est difficile d'entrer dans l'émotion, effectivement, avec les pères.
Puis c'est pas une question de capacité, c'est une question de socialisation. C'est comment on a été éduqué, les images qu'on reçoit au niveau au long de notre éducation. Mais quand on prend le temps de faire une thérapie avec un homme, il y a les capacités, le quotient émotionnel aussi développé qu'une femme. C'est pas une question de génétique ou c'est pas une question de tempérament. C'est pas inné, en fait. C'est comme ça que j'aurais envie de le dire. C'est pas inné. C'est une question
ce qu'on a observé, ce qu'on croit que c'est juste et tout ça. C'est ce qu'on a entendu plus.
Oui. Entendu de refouler nos besoins ou de refouler nos émotions. C'est de moins en moins vrai, mais il y a quand même. Ouais. Si on regarde au point de vue éducation, il y a quand même beaucoup plus de comportements de socialisation vers des petits gars qui nous amènent à refouler ou à se conduire un peu plus de façon, même refouler de notre colère, même si la colère va être refoulée, c'est quand même une émotion qu'il faut apprendre à refouler. Donc, ça étant dit, c'est tout un réapprentissage quand tu reviens avec les enfants pour pouvoir commencer à partager leurs émotions, connecter sur le plan affectif. C'est tout, faut réouvrir sur sa vulnérabilité. Ça, c'est pas naturel.
Et j'imagine, dans ce que vous avez observé aussi, est-ce que c'est souvent, s'ils vont vous consulter, c'est parce que l'arrivée d'un enfant est un peu un moment de conflit, un moment de remise en question du couple aussi.
Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'épuisement qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est un des facteurs numéro un qu'on néglige trop souvent. C'est que, puis je dis souvent aux couples, je dis, imaginez qu'est-ce que vous venez de traverser. Vous dormez pas beaucoup, vous avez pas beaucoup de temps pour vous. Tout que les besoins individuels ou le temps individuel, ben, il est difficile à conjuguer. Puis vous faites beaucoup, beaucoup de sacrifices pour votre enfant. Puis vous voulez être des bons parents. Puis à travers ça, vous avez de la difficulté à soutenir l'autre. Parce qu'il vous reste plus d'énergie, puis l'autre aurait besoin d'être soutenu aussi. Fait que vous êtes deux personnes, je vais dire, dans une chaloupe qui ramait dans de l'adversité. Parce que là, il y a beaucoup de vagues. Vous étiez sur un long fleuve tranquille, mais là, il y a une vague, il y a une tempête qui s'est levée. Puis vous êtes très heureux d'être que ça soit arrivé, mais il y a quand même de ça brasse.
C'est ça.
Fait que d'être indulgent les uns envers les autres. Ça les rassure beaucoup de dire, ouais, OK, on n'est pas tout seul. Parce que souvent, les couples, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Moi, c'est ce que j'observe beaucoup, c'est que les couples pensent tout seuls à vivre un désespoir ou une difficulté d'adaptation avec l'arrivée de l'enfant. Puis pour les hommes, c'est encore plus difficile. Moi, avec ma conjointe, on avait décidé d'aller vers les sages-femmes. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation à la grossesse. Mais personne qui a parlé des hommes là-dedans. Là. On était là pour tenir la main de notre conjoint, tout simplement. Là.
C'est ça.
On était des hommes objets.
Dans un autre type d'objet.
Donc, puis j'étais vraiment surpris qu'on n'adresse aucunement la place du père.
Ouais.
La place de l'homme dans cette étape de vie-là qui est cruciale puis qui est fondamentale pour le reste de notre vie.
Ben oui. Donc c'est ça, effectivement, il y a un chemin encore à faire, en tout cas, par rapport à effectivement permettre à l'homme. Mais je vois d'ailleurs de ces derniers temps, là, il y a certains moyens financiers qui sont mis là, pour l'éco-parentalité, le partage des tâches et tout ça. Là. Donc, en tout cas, il y a des ouvertures qui se font là, ces dernières années. Là.
Oui, des très belles choses. Notamment, par contre, il faut souvent avoir la coparentalité ou ce qui se donne comme soutien présentement, c'est dans des litiges. De séparation.
Que
ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent, là, que je connais moins. Mais en tout cas, moi, je pense que de plus en plus, on devrait mettre en place des programmes ou des activités qui permettent justement aux parents de comprendre dans quoi ils s'engagent.
Ben oui. Est-ce que vous avez remarqué, parce qu'on voit un peu les générations, la nouvelle génération, est-ce qu'elle est différente, la nouvelle génération, par rapport à l'arrivée d'un enfant, de ce que vous avez vu, peut-être, c'est peut-être moins les cinq dernières années?
Ils ont des modèles, ce qui est différent de ma génération à moi, ou un peu plus vieille, c'est que les jeunes ont des modèles, leur père, leur mère ont était dans le fond à pouvoir partager.
OK.
Donc ça, c'est aidant. La deuxième chose, c'est qu'ils hésitent moins à consulter.
Ah, OK. Ça
se voit bien.
Quand vous dites qu'ils hésitent moins, c'est le couple ou c'est même l'homme aussi quand même?
Oui, l'homme va hésiter beaucoup moins à consulter. Il va aller chercher, ça, c'est encourageant. Là.
Ouais,
il va aller chercher plus d'aide. Puis, ils veulent rester ensemble. Ils veulent rester ensemble. Il y a comme le désir de pas reproduire la séparation. Souvent, ils ont vu leurs parents se séparer ou leurs parents peut-être ont resté ensemble. Mais l'idée de former une famille unie à long terme est vraiment, vraiment présent chez les jeunes qui sont encore remplis de rêves, remplis d'espoir.
Ah, super.
Puis les rôles sont moins... tu vois que les rôles sont moins stéréotypés un peu. On voit ça.
Bon. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup, M. Simard. Ça a été bien, bien agréable de partager ces informations-là avec vous. En tout cas, ça nous donne effectivement une meilleure idée de en tout cas, pour les hommes qui ont envie peut-être de vivre cette paternité-là, puis qui savent peut-être un peu plus dans quoi qu'ils doivent s'embarquer.
Oui.
Et puis, on peut-être se revoir peut-être dans un autre sujet. Merci beaucoup, M. Simard.
Merci, M. Trudel.